1, 2, droits soleil est un balado du Bureau international des droits des enfants qui informe, explique et questionne la situation des enfants et de leurs droits à travers le monde.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado de l'IBCR 1, 2, droit soleil. Aujourd'hui, nous avons le deuxième épisode de notre saison dédiée à la question de l'exploitation sexuelle des enfants. Pour ce deuxième épisode, nous recevons Guillaume Landry, directeur exécutif d'ECPAT International, qui va nous présenter les nouvelles tendances, les nouvelles formes d'exploitation sexuelle des enfants. Donc, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Enchanté.
Enchanté.
Peut-être on pourrait commencer juste avec une présentation vraiment de qui est ECPAT International, que fait l'organisation. Peut-être juste spécifier que nous, à l'IBCR, on est représentants canadiens d'ECPAT International, d'ECPAT. Donc, je voudrais bien que vous nous expliquiez ce qu'est ECPAT International.
Bien, super. En fait, ECPAT International, c'est le plus grand réseau qui existe au monde dédié, complètement consacré à la question de l'exploitation sexuelle des enfants. Donc, il y a 143 membres, dont fait partie l'un d'eux, c'est le Bureau international des droits des enfants, mais il y en a 142 autres présents dans 115 pays. Et c'est des mouvements de la société civile. Donc, évidemment, une société civile au Nicaragua versus en Mongolie ou au Bénin, c'est pas la même chose. C'est assez diversifié comme réseau. Il y a des membres qui sont composés de milliers de personnels. Il y en a qui sont composés d'une toute petite équipe, des bénévoles ou des professionnels. Il y en a qui sont très décentralisés. Il y en a qui sont spécialisés. Mais bref, ce qui rassemble ce mouvement-là, c'est la question de la lutte contre l'exploitation sexuelle.
Super. Donc, ça vous donne aussi une compréhension, on va dire, des nouvelles tendances, des nouvelles formes dont on va parler, qui prend plusieurs formes selon les pays, j'imagine, selon les continents. Est-ce qu'on peut imaginer ça ou c'est plutôt comme uniforme?
Non, justement. Puis c'est peut-être un peu la force d'ECPAT du fait d'avoir une présence d'avoir une portée aussi grande et d'avoir des groupes qui sont actifs en Suède, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, tout autant que 78 % des membres sont dans les pays en voie de développement. Donc, la capacité de pouvoir articuler un peu une diversité de points de vue puis d'amener un peu l'approche de la base vers les preneurs de décision, c'est aussi ce qui fait un peu la marque de commerce d'ECPAT. Donc, d'avoir des groupes qui sont présents au front avec les enfants au quotidien ou qui travaillent avec les prestataires de services et qui constatent ce qui se passe et qui le constatent non seulement dans les pays où souvent on va venir s'intéresser à la question, admettons les pays plus en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi constamment ramener ça à la réalité qui est souvent la même, mais qui a des distinctions, que ce soit en Inde, en Égypte ou bien en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est toujours un peu important quand on veut influencer les preneurs de décision, de se rappeler que l'exploitation sexuelle est universelle. Il n'y a pas de pays qui est à l'abri de ça, il n'y a pas des sociétés qui sont plus enclines ou qui sont mieux protégées que d'autres. C'est une réalité malheureuse, mais à partir de ça, ça prend des manifestations qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. Mais quand on vient changer une politique des médias sociaux, quand on vient travailler à réguler l'industrie du tourisme ou du voyage, quand on regarde quand il y a une crise humanitaire, des enfants déplacés non accompagnés, peu importe si c'est lié à une catastrophe naturelle, une guerre, une situation économique, peu importe, à chaque fois, il y a un risque. Les enfants peuvent être davantage exposés à l'exploitation sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et de se rappeler finalement que c'est une nouvelle réalité du fait que auparavant, on constatait que l'exploitation sexuelle, c'était beaucoup lié à un facteur socio-économique. L'image un peu stéréotype qu'on a en tête, c'est l'enfant qui vit dans la rue et qui en est réduit à la prostitution pour survivre, pour gagner l'argent nécessaire pour simplement fonctionner au quotidien. Hein? Et ça, cette réalité-là, elle continue d'exister. Elle a malheureusement existé depuis longtemps, puis c'est un phénomène qui continue d'exister. Sauf qu'aujourd'hui, l'exposition des enfants, surtout amplifiée par les technologies, font que les facteurs de vulnérabilité changent énormément. et des enfants de la classe moyenne, des enfants qui sont de la classe élite. Donc, ça veut dire que l'aspect économique en soi ne vient pas finalement immuniser les enfants au fait que, ah, parce que tu as de l'argent, tu ne vivras pas de l'exploitation sexuelle. C'est pas parce que tu vis dans telle société, que tu fais partie de tel groupe religieux, que tu es un garçon plutôt qu'une fille, que tu as une couleur de peau différente. Ça, c'est des variables finalement qui s'atténuent avec le temps et qui montrent finalement une explosion de la vulnérabilité comme démocratique, là, mm-hmm. que tous les enfants peuvent vivre cette réalité-là. Alors, c'est un peu troublant, puis ça rend aussi le travail beaucoup plus complexe parce qu'auparavant, c'était peut-être un peu plus facile de se dire, ben, il y a ce groupe-là, cette population là vulnérable, alors je peux cibler mes interventions puis essayer de mesurer le changement que je vais avoir là-dessus. Mais aujourd'hui, si on se dit, ben coudonc, presque la plupart des enfants peuvent vivre cette réalité-là, comment je peux être efficace dans mon intervention? Donc, récemment, je visitais des groupes en Inde qui, traditionnellement, on a l'image des quartiers chauds, là, les red light districts avec les bordels, et puis des organismes qui se sont implantés dans ces quartiers-là, qui ont développé un réseau de confiance, de partenariat, qui font de la prévention. Quand il y a des enfants nouveaux qui arrivent, les gens savent comment les signaler, les référer pour essayer d'anticiper les risques, etc., etc. Puis ils ont eu du succès pendant des décennies à travailler de cette façon-là. Aujourd'hui, si on veut exploiter sexuellement un enfant à Calcutta, c'est de moins en moins probable que l'abuseur va se rendre dans le quartier du Red Light, rentrer sous le portique qui est écrit « bordel » et aller au comptoir en disant « j'aimerais ça avoir un enfant pour l'exploiter sexuellement ». Donc, il va sans doute utiliser une interface en ligne. Il va se rencontrer dans la banlieue pour avoir une discrétion. Donc, ces facteurs-là, même géographiques au sein même d'une ville, fait que c'est plus comme avant où on avait quelques rues, plus un peu où le phénomène était effervescent, puis que ça permettait quand même de spécialiser l'intervention. Donc, ça fait partie aujourd'hui des défis en se disant, ben à partir du moment où on constate que tout le monde peut être exposé, comment on essaie de travailler efficacement là-dessus.
OK, donc il n'y a pas vraiment, on va dire, de nouvelles manifestations, c'est plutôt une nouvelle vulnérabilité des enfants qui est vraiment comme le gros changement qu'on remarque? Ou...
Bien, c'est un bon point, c'est un peu les deux. Je vais dire une chose puis je vais dire le contraire. La première chose, c'est de se dire, peut-être que le phénomène qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on brise un peu des tabous. Donc, c'est pas tant que c'est nouveau qu'il y a de l'exploitation sexuelle des enfants à l'école, qu'il y en ait dans le sport, qu'il y en ait dans les communautés religieuses, qu'il y en dans les camps de jour, l'été. Autrement dit, c'est quelque chose qui existait toujours, mais dont on ne parlait peu ou pas, ou dépendant dans des contextes culturels, dans certains pays, c'est quelque chose dont on ne parlait jamais. Mais là, aujourd'hui, dans toutes les régions du monde, la société civile fait se ressortir le fait, par exemple, qu'on parle beaucoup plus de l'exploitation sexuelle des garçons. Est-ce que c'est parce que le phénomène est nouveau et que ça n'existait pas auparavant, ou simplement parce qu'aujourd'hui, on a peut-être évolué vers un lieu, on est plus en mesure de constater, je dis même pas encore de traiter le phénomène, mais au moins de pouvoir le nommer, de reconnaître que ça survient. Donc ça, c'est un élément où on dit c'est peut-être plus l'évolution de la capacité d'en parler ou la levée de certains tabous qui est à noter, mais pas nécessairement ça veut dire que la prévalence change. Par contre, quand j'arrive sur l'autre pendant de la chose, surtout avec l'arrivée des technologies, c'est venu complètement bouleverser l'ampleur et les manifestations de l'exploitation sexuelle. Donc, l'image qu'on voit souvent dans les campagnes de sensibilisation là, de la petite fille dans sa chambre rose à la maison, les parents cuisinent et puis à travers le méchant ordinateur, des gens sans scrupules qui viennent d'ailleurs, viennent abuser potentiellement la petite fille. Mm-hmm. Ça capte l'imaginaire. On dit, mon Dieu, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Donc, ça nous permet de connecter avec le phénomène. Encore une fois, cette description-là correspond à une portion de la réalité. Il faut se rappeler, même quand l'enfant est exploité via des technologies, 70% des abuseurs sont connus de l'enfant. Donc, le fait que ça se fait par les technologies ne change rien au phénomène qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire que la plupart des gens qui exploitent sexuellement un enfant font partie du cercle d'initiés, du cercle de confiance de l'enfant. Donc, oui, un 30% qui peuvent être des inconnus, puis notamment avec les technologies, la notion d'un dark web ou des gens qui font du live streaming, qui vont faire de l'extorsion à des fins sexuelles. Donc, oui, on en entend parler de ça, puis c'est important de souligner ces manifestations-là. Puis c'est des phénomènes qui bougent vite. Prenons le cas de l'extorsion. Donc, on se réfère il y a 4 ans dans les statistiques des services de police des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Italie. C'était quelque chose qui était pas, qui faisait pas partie des statistiques. Qu'est-ce que c'est l'extorsion sexuelle? C'est-à-dire que c'est une personne qui va tenter de gagner la confiance d'un enfant. C'est fait de façon extrêmement subtile et intelligente. Hein? C'est très sophistiqué. Puis il faut se dire, les enfants, ils sont pas stupides. Moi, je croirais à cette approche-là. Donc, j'établis un lien avec une personne. Cette personne-là, elle est vraiment cool, sympathique. Il y a des images qui sont utilisées. Il y a tout un narratif. C'est très crédible. On va faire une erreur, une fausse erreur, ou comme si la personne avait ouvert sa caméra par erreur. Et puis, on la voit dans son univers. Donc, vraiment, on est amené à croire cette personne-là. C'est évident qu'elle existe, qu'elle est vraie, qu'elle est réelle. Puis là, à un moment donné, ben vient l'occasion de dire, « Hey, pourquoi est-ce qu'on ne s'échangerait pas des photos intimes? » Et puis là, la personne, l'autre, la fille souvent, va partager des photos. Et puis là, le garçon, souvent qui est ciblé, va faire de même. À l'instant même, et c'est une question de fraction de seconde, le garçon a partagé l'image. Là, toute la personne qui était derrière le faux profil de cette personne-là disparaît. Et là, on embarque dans quelqu'un qui est vraiment pour objectif d'extorquer de ce garçon-là des sommes d'argent par la menace. En disant « je vais ruiner ta vie par le même média social que tu as utilisé pour accepter mon invitation. Donc maintenant, je connais tes amis et ta famille. Je vais prendre cette photo et je vais la diffuser auprès des gens que tu connais et je vais détruire ta vie. À moins que tu dois m'envoyer de l'argent dès maintenant. » Et donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui va extrêmement vite, qui n'existait pas beaucoup auparavant. 90 % des victimes ciblées sont des garçons. Et c'est actuellement la manifestation de l'exploitation sexuelle qui mène au plus haut taux de suicide. Donc, ça montre qu'ils sont allés chercher une niche très spécialisée sur la détresse que vit un garçon face à l'idée qu'une image intime puisse être diffusée dans son réseau d'amis et sa famille. C'est tellement pas possible donc de se concevoir comme étant une victime potentielle de l'exploitation sexuelle. Les garçons ne pleurent pas, les garçons sont forts. On vient jouer sur plein de stéréotypes qui fait que même dans des sociétés où on a fait un chemin sur les questions de genre, il y a des éléments comme ça de base qui viennent rendre finalement une vulnérabilité que certains viennent exploiter, qui vont faire du profit autour de ça. Et c'est venu augmenter de façon exponentielle le type de cas qui ressortent de plus en plus de cette façon-là. Ça peut être fait de façon très locale, mais il y a des gens, on va appeler ça des fermes, c'est un drôle de mot, qui sont des ordinateurs en série, une derrière l'autre, et des personnes qui, derrière, sont employées par la force, parfois, ou d'autres volontairement, contre rémunération, et qui viennent soutenir plusieurs tentatives, et quand il y en a une qui fonctionne, tout est mécanique, tout est déjà prêt d'avance, et ça génère de l'argent qui rentre par toutes sortes de moyens. Donc, c'est un exemple de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et ça, on est sur une manifestation nouvelle en ce sens-là. Puis peut-être que dans 5 ans, cette manifestation-là va bouger vers d'autres choses avec l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, c'est là où il faut faire attention parce que quand on parle de tendance, on peut s'intéresser à quelque chose qui est très, souvent, qui est très attrayant au niveau médiatique, qui est spectaculaire là, sur quelque chose qui vient de ressortir, qui est très effectivement tendancieux. Puis en même temps, la trame de fond qui est celui d'un enfant qui, dans son adolescence, teste des choses, est curieux, est malhabile, est mal outillé, et puis est vulnérable d'une certaine manière et est exposé à ça. C'est les mêmes trames de fond qui s'appliquent, peu importe où on est, peu importe si c'est via les technologies ou pas. Alors, c'est un peu ces éléments-là qu'on doit prendre en compte ensemble.
OK. Là, je vais être très précise, mais par exemple, ce cas-là, cette étude de cas-là, est-ce que c'est quelque chose qui va être universel? C'est plus dans les pays du Nord? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez partout? Est-ce que ça prend différentes formes?
Ben, oui, c'est une bonne question parce que il y a plusieurs choses. Les pays, peut-être occidentaux, ont une force de documentation, des banques de données, des mécanismes de signalement qui leur donnent accès à des statistiques que peut-être d'autres pays n'ont pas, où on est plus dans l'anecdotique, où c'est moins structuré comme accès à l'information. Donc, ça nous amène à avoir des données beaucoup plus probantes, en temps réel sur les sociétés occidentales, mais ça ne veut pas dire que le phénomène est unique à ces lieux-là. Récemment, quand je suis allé au Japon, c'était fascinant de constater que la tendance des statistiques japonaises suivait exactement la même que des pays comme les États-Unis, même en temps, en termes de temps. Et ça, c'était surprenant parce qu'on pourrait présumer qu'il y a peut-être une nouvelle tendance qui émerge aux États-Unis, puis le temps qu'elle soit traduite et qu'elle ait lieu dans un contexte culturel très différent comme le Japon, il y aurait eu un décalage. Mais non, pas du tout. Au même moment où les statistiques survenaient aux États-Unis, elles survenaient au Japon. Or, au Japon, en raison de la langue, on peut présumer que les réseaux qui exploitent les enfants sont japonais, tandis que ceux qui exploitent les enfants en France, aux États-Unis, en Colombie, sur des langues peut-être partagées par plusieurs pays, là, il y a des pays qui se sont retrouvés à être un petit peu sous les projecteurs, à héberger ces gens de ferme-là qui viennent cibler de façon internationale. Donc, il y avait sous un ordinateur des victimes présentes en Australie, en Allemagne, au Mexique, au Canada. Et il y a l'aspect extrêmement local aussi. Donc, il y a quelque chose qui attire aussi le crime organisé, la structuration, le profit à faire. Mmh. Puis, il y a quelque chose qui peut être aussi extrêmement local. Donc, c'est ni l'un ni l'autre, c'est tout ça à la fois.
Oh, ouais, des dynamiques comme... qui se rencontrent. Avant peut-être de passer aux solutions, j'aurais une question peut-être un peu plus ancrée dans notre contexte québécois-canadien. Nous, ces dernières années, ici, on a beaucoup entendu parler de l'exploitation sexuelle, surtout des filles, dans le cadre du Grand Prix, du tourisme. Donc, c'est peut-être une réalité qui nous semble un peu nouvelle. Donc, dans cette idée de tendance, peut-être voir un peu... Avant, on disait touriste sexuel, on n'en parle plus vraiment. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est en train de changer? Pourquoi est-ce qu'au Québec, c'est comme surgi dans les 5 dernières années? Est-ce que vous avez aussi observé quelque chose en rapport avec ça?
Oui, c'est intéressant, puis c'est important. C'est pas un phénomène nouveau, effectivement. Puis quand il y a eu l'étude mondiale portant sur l'exploitation sexuelle des enfants dans l'industrie du tourisme et du voyage, qui a été lancée à Bogota en 2018, l'étude était mondiale et le chapitre qui portait sur l'Amérique du Nord faisait ressortir 3 villes qui étaient l'épicentre de l'exploitation sexuelle des enfants. C'était Las Vegas, Atlantic City et Montréal. Donc déjà à cette époque-là, on avait des preuves tangibles d'une documentation finalement de la plaque tournante que pouvait jouer une ville comme Montréal par l'attrait d'événements majeurs comme celui du Grand Prix, le Palais des Congrès, l'attrait d'avoir des événementiels corporatifs, l'élément aussi d'une culture un peu qui persiste à avoir un âge du consentement à la sexualité, d'avoir une réputation sur l'alcool. Donc, les jeunes de la Nouvelle-Angleterre qui atteignent un certain âge peuvent avoir cette image-là du Montréal, ville ouverte qu'il y avait auparavant. Il y a une identité presque touristique aussi qui peut être développée autour de ça, qu'on le veuille ou non. Il y a la dimension des Premières Nations aussi, comme plaque tournante que Montréal peut jouer, d'amener la population plus en territoire, passer, transiter, puis ces moments-là de vulnérabilité. Donc, plusieurs facteurs qui viennent, qui doivent être pris en compte. C'est certain qu'au niveau des tendances, avec la pandémie, l'industrie touristique s'est littéralement effondrée à l'échelle mondiale et ça a un aspect dramatique sur plein de communautés, puisque c'est une industrie qui offre énormément d'emplois à la population. Donc, situer une infrastructure touristique dans une communauté, ça fait vivre cette communauté-là. Et on l'a vu par la chute de l'industrie, la perte d'emplois, les situations dramatiques que ça a causées. La resurgence de l'industrie a pris un moment et ça a fait en sorte que les questions de durabilité, d'éthique, de droits humains dans l'industrie ont peut-être été un petit peu mis de côté dans la relance de l'industrie parce que là, il y avait vraiment un manque à gagner, une ferveur de vouloir retrouver des volumes touristiques auparavant. Alors, ça a été un petit peu difficile pendant quelques années de ramener le sujet comme étant central à la conversation. Mais en septembre dernier, à Rome, c'était le sommet du Conseil mondial sur l'industrie du tourisme et du voyage. Et là, on faisait remarquer des tendances dans l'industrie touristique et on portait la protection de l'enfance au sein même du de l'agenda de la conversation. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Les tendances qu'on constate, c'est qu'on cherche à voyager avec un sens d'aller chercher une valorisation, un objectif. Donc, en anglais, le purpose travelers. Donc, ça paraît que je travaille plus en anglais ces temps-ci, désolé. Mais donc, dans ce sens-là, ça veut dire que toutes les gens qui vont vouloir s'engager en faisant du volontariat, qui vont vouloir ajouter à leur voyage la notion de contribuer tout en voyageant, ça vient donner un côté éthique au voyage. Puis c'est plein de bonnes choses là-dedans. Mais la rapporteure spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence, sur l'exploitation sexuelle des enfants, a lancé un rapport en 2023 sur les dangers du volontourisme. Donc, le Canada, c'est un pays de très fort en matière de coopération internationale puis de volontariat. Mais le volontourisme, c'est la tendance où on voyait des gens peut-être sans cadre, sans vérification des antécédents judiciaires, en les mettant en exposition directe avec des enfants. Ça vient exacerber des vulnérabilités, puis ça amène à de l'exploitation sexuelle, comme on le constate dans plusieurs pays. Notamment toute l'industrie du tourisme autour des orphelinats. C'est vraiment une tendance très capricieuse là, sur laquelle il faut faire très attention, notamment par la réglementation, pour ne pas perdre de vue la valeur ajoutée de celle de la coopération internationale, mais quand même en le faisant pour que ça ne soit pas mal utilisé à des fins d'exploitation sexuelle. Il y a aussi tout l'agenda de la localisation. Donc, les gens veulent voyager, mais ils veulent peut-être sortir un petit peu plus des sentiers battus. Partout où on va dans le monde, on constate que les gens disent « il n'y avait pas de touristes avant dans ma région, mais aujourd'hui, il y en a ». Et tout le monde recherche un peu l'idée qu'il voit quelque chose d'unique que personne d'autre avait vu auparavant, même si on est le 600e de la journée à prendre la même photo. Mais toujours est-il que dans cette dimension-là, on amène des gens de plus en plus loin où il n'y a pas nécessairement les infrastructures de protection, il n'y a pas une approche systémique autour de ça pour encadrer. Puis encore une fois, c'est toujours d'équilibrer le fait que le tourisme offre énormément d'opportunités pour les jeunes en employabilité, une exposition linguistique, culturelle. C'est tout positif, cet élément-là. Mais ça vient avec des risques. La question, c'est simplement comment est-ce qu'on les anticipe et comment on en tient compte dans nos politiques de développement, etc. Et donc là-dessus, quand on a fait un projet en Équateur et au Costa Rica avec des jeunes, c'était formidable d'arriver à la fin d'un plan quinquennal gouvernemental sur le développement de l'industrie touristique et de faire participer les jeunes en leur demandant au départ, voici les opportunités qu'on avait escomptées pour vous et voici les risques qu'on avait escomptés pour vous. 10 ans plus tard, est-ce qu'on a livré la marchandise? Mm-hmm. Et maintenant qu'on va formuler le nouveau plan, qu'est-ce que vous en pensez? Devrait-on bonifier l'intervention, la réfléchir autrement? Puis la qualité des interventions que les jeunes proposaient était telle que c'était probant que sans l'apport des enfants, les plans n'auraient pas pu être aussi forts, aussi riches, mm-hmm. aussi donnant espoir qu'il allait avoir vraiment une portée plus significative de cette industrie-là dans la prochaine décennie. Donc, c'est l'illustration aussi de l'importance d'impliquer des jeunes sur ces questions-là. L'IBCR est un chef de file dans le domaine, mais c'est vrai que sur la question de l'exploitation sexuelle, malheureusement, je dirais souvent, les adultes, on a tellement de malaise à parler de la sexualité avec les enfants, on vient confondre que l'éducation à la sexualité, ce serait une activation de la sexualité des enfants, voire même, faisons attention à la terminologie, on devrait appeler ça un cours sur les relations et pas nécessairement sur le sexe. Déjà, pour un peu clarifier là, les tendances parfois mm-hmm. un petit peu plus conservatrices qui peuvent jouer sur ces éléments-là, mais partout dans le monde, on voit une régression que les adultes se sentent prêts et outillés à aborder ces questions-là avec les enfants. Et là, ça arrive, c'est là où c'est formidable. On a des millions d'enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Ils sont assez vieux pour le subir, mais ils sont trop jeunes pour en mm-hmm. parler. Il y a comme un non-sens absolu là-dessus. Et quand on questionne les enfants, notamment dans l'industrie touristique, ils disent, peut-être vous avez des bonnes intentions en faisant des programmes de prévention, en reflétant ce que vous pensez qu'on vit dans une affiche, dans une campagne, mais on se reconnaît pas, ça nous parle pas, c'est pas vraiment ça qu'on vit. Et cet écart-là entre la réalité vécue des jeunes aujourd'hui, complexifiée par les technologies où ils nous considèrent comme des dinosaures, puis qu'on comprend pas tout à fait ce qu'ils vivent, ben si on ne les implique pas dans la conceptualisation de nos interventions, ben on est condamné à voir le phénomène s'accentuer. Mm-hmm. Les dernières statistiques, là, ECPAT mène avec UNICEF et Interpol des études de prévalence mondiale sur le degré de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, facilitée par les technologies. Puis les données qu'on a obtenues, par exemple, sur un pays comme les Philippines, c'est un enfant sur cinq qui a concrètement, dans une année calendrier, été exposé à de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Donc, c'est dire on atteint un niveau presque épidémique. On ne pourrait pas dire que l'exploitation sexuelle dans ses formes traditionnelles est en augmentation. Elle est plutôt stable, mais c'est vraiment l'exposition par les technologies qui viennent rejoindre un nombre beaucoup plus important d'enfants. La pénétration des technologies sur le continent asiatique, africain, est telle que ça donne accès à un nombre de personnes qui auparavant n'étaient pas nécessairement dans la mire de ce qui était des victimes potentielles. Mm-hmm. Alors, c'est là où ces éléments-là viennent bouger un peu les perspectives d'action.
OK, c'est super intéressant. Comme je disais, je voulais passer justement aux solutions. Je pense que là, on en a une qui, est évidemment, pour nous, nous tient tellement à cœur, qui est vraiment de comprendre depuis la perspective des enfants, surtout ceux qui sont à risque, pour essayer de mieux comprendre. Mais peut-être, est-ce qu'il y a... On a vu tantôt qu'en Inde, il y avait une organisation, peut-être son modèle d'intervention n'était plus aussi efficace. Quelles seraient les autres solutions, peut-être, ou quels changements est-ce qu'on doit faire pour mieux lutter, prévenir l'exploitation sexuelle des enfants?
Bien, plusieurs idées. Je pense que on est dans une période au niveau mondial, il y a énormément de tumulte sur les mécanismes de financement sur lesquels la société civile reposait son modèle d'intervention. Et là, aujourd'hui, il y a des coupes massives, il y a un désengagement, puis ça vient bousculer énormément de choses. Il y a d'autres interventions, d'autres partenaires qui entrent en scène, on voit plus peut-être de financement lié à des institutions religieuses, il y a plus de fondations privées, le secteur privé qui rentre en scène, des régions comme les pays du Golfe, comme l'Asie, qui sont plutôt en montée, en développant des agences de coopération, puis peut-être que les pays traditionnels qu'on a conçus, comme les Scandinaves, les Européens du Nord, les Nord-Américains, sont en perte de vitesse sur l'influence qu'ils jouent sur le financement et l'appui de ces interventions-là. Mais ça remet aussi en question les modèles d'intervention des organisations. Avec les variations très rapides que génèrent les technologies, il y a un risque évident à un moment donné que les succès d'hier ne soient pas garants du succès de demain. Comment est-ce que la société civile est apte à pouvoir constamment se renouveler, se remettre en question, rester au fait des tendances? C'est facile à dire, mais c'est très exigeant quand on est en mode survie. On vit des coupures, on a de la misère à maintenir les interventions qu'on a. Puis pendant ce temps-là, il faudrait en plus innover, s'approprier des nouveaux espaces, revoir les modèles d'intervention. C'est très difficile. Puis je constate qu'il y a des organisations qui tranquillement peuvent, on pourrait même présumer, vont perdre leur pertinence dans quelques années s'ils ne vivent pas un peu un renouvellement de leur modèle d'intervention. Et puis d'autres qui réussissent à le faire. Donc, c'est vraiment ça, c'est un niveau, je pense, qui nous interpelle comme société civile de rester, de trouver les moyens, en dépit de l'adversité du secteur, de rester au fait de ce qui se passe. D'autre part, c'est aussi de décloisonner que l'exploitation sexuelle, peut-être typiquement, on a beaucoup parlé d'interventions avec les travailleurs sociaux, la police, les procureurs. Donc, on est dans un cercle d'intervention beaucoup autour de la justice, des éléments de prévention avec le scolaire, on va parler avec les familles, etc. Mais si on prend un pas de recul puis qu'on constate que l'exploitation sexuelle, elle survient là où les enfants sont. Hein, tout simplement. Alors, s'ils sont dans des camps de jour, ils sont dans des activités sportives, ils font des activités religieuses, ils font des voyages, ils passent du temps en ligne, etc., ces lieux-là sont tout aussi pertinents. Alors, comment est-ce qu'on réfléchit à la prévention et l'action avec d'autres types d'intervenants que ceux traditionnels qui venaient souvent sur une réalité plus sociale de l'exploitation sexuelle? Donc, dans ce sens-là, quels sont les partenariats à développer avec les prestataires de services Internet, les jeux vidéo où il faut suivre les jeunes, quelles sont les dimensions pour aller chercher de l'aide? C'est des composantes qui font partie de tous des jeux vidéo. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on les développe? On les influence. Montréal est quand même aussi un centre névralgique du développement de cette industrie-là. Donc, le débat, puis il faut faire attention, c'est pas la question d'accuser une industrie plutôt qu'une autre ou un secteur plutôt qu'un autre. Vous êtes responsable de l'exploitation sexuelle. individuelle. C'est plutôt de dire comment est-ce qu'on peut les accompagner à jouer leur rôle au mieux dans ce risque-là qui est intrinsèque à plusieurs industries. Récemment, là aussi, je tire des fleurs, le Canada sur les institutions financières. Donc, le Canada, c'est un des pays qui a innové avec l'autorité des marchés financiers à intégrer des alertes qui obligent, dans le fond, l'ensemble des institutions financières, que ce soit des banques, les crypto-monnaies, les compagnies d'assurance, les plateformes de transfert d'argent comme Western Union, MoneyGram, toutes ces industries-là sont couvertes par l'industrie, par l'autorité du marché financier, et que l'autorité, elle adopte une alerte pour déterminer le genre de transactions qui pourraient être suspicieuses et qui seraient liées potentiellement à de l'exploitation sexuelle. C'est une utilisation de l'intelligence artificielle qui n'est pas complexe à faire, mais qui permet, quand on regarde les cas précédents, avoir des patterns, en bon québécois, des comportements répétitifs. Et quand on les met dans un système, on voit que d'autres personnes ont le même comportement. Ça mène non pas à l'arrestation de la personne, mais simplement une enquête. Et là, on s'aperçoit qu'on peut trouver beaucoup plus, on peut travailler sur l'aspect de la demande, hein, qui sont celles et ceux qui sollicitent ce genre de service-là. Donc, d'avoir cette expérience-là depuis plus de 10 ans au Canada, où les institutions financières collaborent avec les autorités responsables du maintien des lois à partager des informations pour détecter et agir là-dessus, c'est super intéressant. Puis cette expérience-là, le Canada l'a accompagnée avec ECPAT International pour l'implanter au Pérou. Et le Pérou, ça a été le premier pays d'Amérique latine à développer sa propre alerte et là, de créer un mouvement puis de dire, ça, c'est un exemple d'action qui, dans le fond, c'est pas très cher, c'est pas complexe techniquement, c'est une question de volonté politique puis de réfléchir aux institutions financières comme potentiellement des alliés. Elles ont un rôle à jouer. L'exploitation sexuelle, c'est simple, il faut juste suivre l'argent. Alors, il y a toujours des traces financières qui sont laissées derrière. C'est une des avenues pour détecter et agir sur le phénomène. Mais je ne prends cet exemple-là, on peut avoir des traces technologiques, par exemple, qui sont laissées aussi, la collaboration avec les médias sociaux en ce sens-là. Donc, de réfléchir autrement dit, de façon plus large à l'action à poser, là, il y a vraiment un potentiel important, puis qui nous permet de mieux situer les choses. Je termine peut-être sur l'exemple avec le Grand Prix de Montréal. On va avoir bientôt FIFA qui va organiser la Coupe du monde de soccer pour le Mexique, le Canada et les États-Unis, les trois pays hôtes, les 16 villes qui vont héberger ces matchs-là. C'est d'autant, encore une fois, d'exemples de comment est-ce qu'on travaille, par exemple, avec l'industrie du transport. Les aéroports, les trains, les autobus, les avions vont être énormément sollicités pour déplacer les gens d'une ville à l'autre selon l'état de l'avancée du tournoi. Même chose pour l'industrie de l'hébergement. Donc, et ça peut être des hôtels traditionnels ou ça peut être des plateformes où on vient, réserver, oui. Effectuer une réservation pour un type d'hébergement. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec ces industries-là pour qu'elles soient du bon côté de la route et qu'elles viennent sensibiliser les voyageurs? Mais aussi l'industrie elle-même pour savoir, ben je fais quoi si j'ai un doute? Et c'est des petites choses à faire encore une fois. Et là, je pense qu'avec l'IBCR, il y a un momentum pour venir travailler de façon innovante sur cet exemple-là. Puis les acquis qu'on pourra développer dans le cadre de cette campagne-là, ben il y a tellement d'autres sports, d'autres types d'événements sur tous les continents qu'on peut recycler les messages, les adapter. Alors, c'est là où il y a aussi la notion de créer un mouvement derrière ça qui peut être un peu plus durable et qui peut avoir un effet cumulatif, disons, d'un événement à l'autre.
Oui, c'est important parce qu'une chose qui, moi, me frappe, c'est que je pense que, tu sais, comment je le résumerais, c'est qu'il faut un peu s'ouvrir, hein, que ce soit en termes d'acteurs qui financent, d'acteurs avec qui on intervient, d'acteurs concernés. Il faut, c'est plus les usual suspects, il faut qu'on s'ouvre à plusieurs autres personnes, plusieurs modes de fonctionnement. Mais souvent, on est, nous, dans le monde de la société civile, un peu confrontés à une espèce de... C'est des gens très spécialisés, très niches. Tu sais, c'est des domaines qu'on maîtrise moins, qui sont plus dans le privé. Donc, je pense que cette création d'expertise-là, de réseau, va peut-être une des solutions qui va nous permettre d'acquérir ces expertises-là qu'on n'a pas. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe dans ce que vous avez dit. Comment est-ce que nous, on peut suivre depuis, comme on l'a dit, dans la survie, mais aussi parce qu'on vient plus du social, parce qu'on a tout à fait ces intérêts-là, tout ce mouvement technologique-là, comment on peut rester à l'affût? C'est quoi un peu comment vous faites avec Pat, en fait?
Ben, c'est pas simple, puis en même temps, c'est plein de potentiel. C'est cette fluidité-là en quelque chose d'extrêmement local, puis jusqu'à l'échelle mondiale. Alors, c'est peut-être là la responsabilité d'ECPAT, parce que ce que j'aime bien dans ce réseau-là, c'est d'avoir été, même avant le discours sur la décolonisation puis la localisation, une organisation qui, le siège est à Bangkok, et puis elle est menée par le Sud, il n'y a pas de transactions financières, les membres sont complètement indépendants, elles prennent leur décision. Donc, ce n'est pas des rapports d'autorité de force où il y a une instance siège qui décide et organise. C'est un réseau très matriciel là, dans son organisation. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est pourquoi une organisation ferait partie du réseau si le réseau, son objectif, ce n'est pas de la financer. Donc, l'ECPAT international est condamné à perpétuellement renouveler sa valeur ajoutée, de démontrer que son lieu d'intervention dans les dimensions normatives, régionales, mm-hmm. internationales, l'innovation, la recherche, piloter des solutions nouvelles, apporte un menu d'options que chaque membre peut identifier ce qui est pertinent pour lui puis le positionner dans son propre travail en sentant qu'il est déjà un petit peu à l'avant-garde de quelque chose. Donc, c'est ce flux-là. Mm-hmm. Mais pour qu'ECPAT international soit pertinent, il faut qu'il soit connecté à ce qui se passe extrêmement localement. Donc, cette conversation-là ne se termine jamais. Puis c'est ça qui est quand même assez stimulant. Mais ça permet aussi d'être beaucoup en valorisation de l'existant, ce qui se passe déjà. Récemment, je suis allé au Pakistan. Ce que je trouvais formidable, c'est une organisation, ça fait plus de 20 ans, qui travaille sur l'exploitation sexuelle des garçons. Donc là, si on utilise tous nos stéréotypes, le Pakistan, c'est une société traditionnelle. La religion est très implantée dans cette partie-là du monde. Donc, on pourrait présumer qu'un sujet aussi sensible que l'exploitation sexuelle, qui plus est lié à celle des garçons, serait complètement tabou, bloqué, on ne peut pas parler de ça. Au contraire, le membre là-bas, c'est l'Association pédiatrique pakistanaise. Depuis 20 ans, font des études, vont sur la place publique, attirent l'attention, créent des alliances avec des aspects traditionnels, religieux, politiques, sociaux, économiques, pour faire cheminer les avancées. Et ça fait que le Pakistan a une des législations les plus progressives au monde pour reconnaître tant les garçons que les filles comme étant des victimes potentielles, puis la distinction des trajectoires et des services nécessaires. Et tout ça, c'est là où des fois, c'est juste la posture où on va dans des endroits inusités puis on se met dans la perspective où c'est pas tant parce que je viens du siège que j'en connais plus qu'eux. Je vais là-bas puis j'apprends des choses. C'est hyper stimulant. Ils sont des chefs de file puis là, on essaie de faire une étude de cas et les valoriser. Donc, ce rôle-là d'entremetteur est aussi vraiment important, surtout dans la foulée où justement peut-être les financements sont plus difficiles. Donc, quand des organisations de la société civile, surtout dans des pays qui fonctionnent avec peut-être un peu moins de moyens, arrivent à faire des choses. Le facteur principal, c'est plus nécessairement l'argent, c'est plus parfois les idées, c'est la qualité de l'intervention mm-hmm. qui leur ont permis de faire, de faire une différence, d'amener ça à un autre. Ça semble peut-être plus facile mm-hmm. à reproduire dans son propre contexte, là, si on veut.
Oui, non, super intéressant. Donc, peut-être que je résumerai notre conversation en disant que l'important, c'est justement d'éclater les conversations, ce qu'on a pu faire aujourd'hui, parler avec différents acteurs, parler avec différents pays, voir ce qui marche. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. J'ai beaucoup appris. Donc,
ça fait plaisir. Merci.
Merci. À bientôt.